Fleur H, la question du jour.
Et c'est donc Jacques Chanu pour la question du jour, président de la Fédération française du bâtiment. Bonjour.
Bonjour.
Alors effectivement, on a eu ce matin, Marie le disait, les chiffres de la construction pour 2019. Alors on est sur un nouveau recul à la fois des permis de construire et des mises en chantier. Moins 2,3% pour les permis de construire, moins 1% pour les mises en chantier. Alors on est en recul, certes, mais c'est quand même nettement moins fort comme recul que ce qu'on avait pu observer en 2018. Je crois qu'on était aux alentours de 7% de baisse.
Oui, c'est ça. Avec sur cette année, un mois de décembre étonnamment haut, parce qu'il faut rappeler que l'année dernière, en décembre 2018, il y avait le phénomène des gilets jaunes, hein, et donc on pense que ça avait un peu perturbé les statistiques. Oui, cette année 2019 a été une année en recul, ce qui n'est pas une surprise. Effectivement, ce n'est pas un recul massif, et c'est tant mieux. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2020 maintenant, parce que je vois vous interveniez tout à l'heure pour dire que les permis de construire étaient en recul. Les permis de construire d'aujourd'hui sont les chantiers de demain. Donc
absolument.
Pour nous, c'est vraiment ça qui nous inquiète un peu et qui doit être regardé de très très près.
Alors, comment ça s'explique quand même que cette baisse a été moins forte que l'année d'avant ?
La demande, je crois très clairement. Et dans
c'est
le...
toujours le même, c'est le tout... même cocktail, c'est... les taux, la croissance.
Voilà, exactement, on est dans cette logique-là. Avec quand même, je crois, un petit point de précision qui est important. C'est qu'il y a un recul massif. Par contre, là, on parle aussi de 7% au niveau du logement collectif, les immeubles, hein. Et par contre, un maintien assez fort sur l'année 2019 sur la partie maison individuelle. Or, on sait que sur 2020, la maison individuelle est le marché qui risque de souffrir le plus, puisqu'un certain nombre de mesures contre-productives, hein, je le dis très, très clairement, pour la maison individuelle ont été votées lors de la loi de finances, notamment la fin du Pinel en maison individuelle, donc de l'investissement locatif, ou la circulaire ministérielle, interministérielle de juillet, contre ce qu'on appelle l'artificialisation des sols, qui a pour effet immédiat de bloquer un certain nombre de maires sur des terrains qui étaient pourtant constructibles dans les zones rurales et qui aujourd'hui sont bloqués par les préfectures sous menace de baisse de subventions et autres. Donc je crains que ce qui aujourd'hui permet d'avoir un chiffre global plutôt bon, même s'il est en recul, hein, soit vraiment mis en cause l'année prochaine parce que le marché individuel qui cache la baisse du collectif risque de souffrir en 2020.
Vous parlez de baisse du collectif, mais je croyais qu'il y avait eu un retour des bailleurs sociaux en 2019.
Oui, il y a un retour de la confiance au niveau des bailleurs sociaux après 2 ans et demi de discussions compliquées, hein, sur leur financement liées à la baisse des APL, enfin, on va pas revenir là-dessus, mais qui a tétanisé les bailleurs sociaux pendant un certain nombre d'années. Mais encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde du marché du logement, que ce soit social ou privé, demande un temps long. C'est-à-dire, quand la machine s'arrête, il faut du temps pour la relancer. Il faut redemander des agréments, il faut repartir. Les bailleurs sociaux ont, sur la partie neuve, joué vraiment leur rôle de, me semble-t-il, hein, de volontaristes, hein, de construction. Mais eux aussi, ne sachant pas l'année dernière sur quel budget ils pouvaient compter sur 2020, ont peut-être freiné un certain nombre de dossiers. Ce qui est vrai en construction neuve, ce qui est surtout vrai d'ailleurs en réhabilitation, en rénovation.
Alors, puisqu'on parle des choses qui sont susceptibles de faire bouger le marché de la construction, oui. C'est vrai qu'il y a eu tout ce qui s'est joué autour du PTZ. Finalement, le dispositif a été maintenu sur l'ensemble du territoire, je crois.
Oui.
Est-ce que vous êtes rassuré aujourd'hui sur la pérennité du dispositif ?
Oh non !
Toujours pas ?
Non. Non. La pérennité d'une mesure fiscale, elle est d'une année. On a beau vous dire, c'est bon jusqu'en 2021.
Mais c'est contradictoire. Vous me dites qu'il faut du temps long pour la construction. On fait ?
Eh bien, voilà. C'est que malheureusement, notre système aujourd'hui d'accompagnement, de solvabilisation de nos compatriotes qui veulent acheter pour habiter ou acheter pour louer, n'est pas sur un temps long. C'est sur une année budgétaire. Chaque année, on a les mêmes discussions autour des systèmes du PTZ, du Pinel, des aides à la rénovation énergétique. Alors que justement, nous sommes sur un marché qui demande de la visibilité, de la lisibilité du temps long. Ce qui est vraiment pénible, hein, dans notre système, c'est que souvent le logement est au cœur de jeux de bonneteaux budgétaires. Par exemple, encore cette semaine, on parle d'une baisse de la cotisation du 1% logement, c'est-à-dire ce qui permet le financement du logement social en grande partie dans notre pays, où on pourrait peut-être baisser cette cotisation baisser cette cotisation pour pouvoir augmenter les cotisations retraite. le budget logement, tout ce qui est la politique du logement ne peut pas être la variable d'ajustement de toutes les autres politiques. On a besoin de temps long et de visibilité, donc par pitié, qu'on maintienne ce qui existe et lorsqu'on bouge un curseur, qu'on se dise qu'on le bouge pour un certain nombre d'années. Mais on peut pas en permanence avoir un discours très lyrique sur le nombre de logements nécessaires dans notre pays, sur la réhabilitation, sur l'enjeu environnemental lié à la rénovation énergétique et chaque année se servir de ces budgets d'accompagnement utiles nécessaire et indispensable à ce secteur pour équilibrer d'autres budgets qui sont en déséquilibre. C'est vraiment là-dessus où on a non seulement un agacement, mais aussi une inquiétude.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais on pourrait vous opposer que finalement vous êtes un secteur sous perfusion qui a besoin d'aide pour fonctionner.
Mais lorsqu'on dit on veut construire, 125 000 logements sociaux en France, est-ce que vous croyez que le modèle économique aujourd'hui permettrait de les construire sans une aide massive, non seulement des cotisations des entreprises via Action Logement, mais aussi de l'État ? Non. Lorsque on dit il faut rénover 30 millions de logements en France parce qu'il y a un enjeu environnemental réel, plus un reste à charge en termes de coût de chauffage qui doit être baissé. Est-ce que lorsque vous avez un retour entre le coût des travaux et l'économie d'énergie réellement générée, quand vous avez un retour sur investissement de 45 à 50 ans, nos compatriotes vont faire ce type de travaux? Non. Donc il faut bien un système qui leur permette d'avoir un retour sur investissement normal de 7 et 10 ans. S'il n'y a pas un accompagnement, une incitation de l'État, ça ne marche pas. Lorsque vous êtes dans un pays où la fiscalité est la plus forte d'Europe sur l'immobilier, où vous avez une rentabilité qui est très très faible au niveau des loyers lorsque vous achetez un appartement ou une maison et que vous la louez, si vous n'avez pas un bénéfice fiscal, une incitation fiscale à le faire, est-ce que vous allez investir dans des logements qui pourtant sont nécessaires dans certains secteurs? Non. Lorsque vous êtes jeune, que vous n'avez pas d'apport, que vous n'avez pas d'argent, qu'une banque vous demande 20 ou 25% pour pouvoir monter votre dossier de financement et que vous n'avez plus de prêt à taux zéro qui remplace cet apport pour les ménages les plus modestes en France, est-ce que vous aurez droit à accéder à la propriété? Non. Donc c'est pas un problème de perfusion, c'est un problème de modèle économique lié à la fiscalité autour de tout ça. Donc nous, on est les premiers à dire qu'on est prêt à vraiment regarder le grand soir fiscal autour de l'immobilier, quel qu'il soit, y compris social, qui nous permettra d'éviter tout ça. Mais il ne faut pas faire l'inverse. Parce que si on supprime aujourd'hui les systèmes incitatifs sans pour autant changer la fiscalité, qui est le plus souvent confiscatoire au niveau du logement, bien malheureusement, le marché s'arrêtera. Ça a été vu dans les années précédentes.
Alors, vous parliez de rénovation. Et il y a eu aussi un changement là, sur ce qu'on appelle le crédit impôt transition énergétique. Ça a été transformé en prime au 1er janvier pour les ménages les plus modestes. Quelle perspective ça ouvre sur le marché de la rénovation en 2020 ?
Alors sur 2020, ça a eu un effet pour les premiers mois de 2020 plutôt positif parce que le crédit d'impôt transition énergétique était beaucoup plus intéressant que la prime qui est réservée qu'à une partie de la population. Oui, les 50% de nos compatriotes qui ont le moins de revenus. Donc c'est une mesure.
C'est peut-être pas ceux qui font le plus de rénovation.
Ben voilà, c'est le sujet, il est là. Et donc ceux qui faisaient le plus de rénovation, nos compatriotes qui ont aujourd'hui les moyens de le faire et qui ont cette volonté là, ont fait jouer à plein les crédits d'impôt transition énergétique avant la fin, c'est-à-dire qu'on a des commandes sur les 6 premiers mois de l'année 2020, des commandes
oui,
de 2019. Et oui. Donc, ça n'aura pas d'impact directement sur 2020 en termes d'activité. Tant mieux, hein. Mais ce que l'on craint, c'est que là encore, de vouloir concentrer des aides, qui sont des aides sociales à la limite, c'est plus des aides à la transition énergétique, c'est aider ceux qui n'ont pas les moyens de le faire pour avoir une somme suffisamment conséquente pour qu'ils puissent lancer des travaux. Mais enfin, nous qui connaissons bien nos clients, lorsque vous avez affaire à un ménage très modeste, même si c'est sur des travaux de 10 000 euros, il leur reste 500 ou 1 000 euros à leur charge, vous avez beau leur donner les 9 000 ou 9 500 euros à leur charge, les 500 ou les 1 000 euros manquants, ils ne pourront pas les trouver. Donc, encore une fois, ce que nous craignons, c'est que d'un concept, d'un dogme, en disant on va les aider au maximum, mais il y a un reste à charge pour eux, sur les très modestes, ils ne le feront pas. Lorsque vous n'arrivez pas à faire vos courses le week-end, vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous n'avez pas à vous lancer dans une dépense à charge supplémentaire par rapport à des travaux de rénovation. Ce n'est pas vrai. Et lorsque vous n'incitez plus ceux qui aujourd'hui ont les moyens de faire ces travaux, vous ne les incitez plus à faire ces travaux de rénovation énergétique, mais ils peuvent faire autre chose. chose de leur argent. L'équipement de la maison, l'embellissement de la maison, mais plus forcément de la rénovation énergétique. Un kilowattheure dépensé chez un riche ou chez un pauvre, si on parle de transition énergétique, c'est le même kilowattheure. Donc là, cette nouvelle système qui manie à la fois une mesure technique et une mesure sociale, j'ai peur, mais j'espère me tromper. Honnêtement, j'ai peur que ça fonctionne pas très bien à terme et qu'il faille revenir à des concept peut-être beaucoup plus simple, parce qu'en plus, hein, là, ça dépend des travaux, des revenus. On a, je crois, plus de 50 cas différents de primes pour remplacer un système qui était le crédit d'impôt, 30% d'économie d'impôt sur tous les travaux de rénovation énergétique. Donc, encore une fois, d'un concept intellectuel qui se défend, j'ai peur qu'on arrive à une usine à gaz derrière qui bloque un peu la machine. Et en plus, on en a profité pour diviser par deux le budget consacré à ça, entre le crédit d'impôt et cette prime-là.
Alors, vous me parliez des maisons individuelles pour lesquelles vous craignez un peu pour le marché en 2020. C'est vrai que 2020 est une année électorale aussi, ce qui a sans doute pu peut-être freiner les constructions de logements collectifs sur la fin 2019. Mmh. Et donc, d'ici que ça redémarre, on a peut-être un petit peu de marge. Comment est-ce que vous voyez cette année 2020? Alors, il faut se diriger vers une troisième baisse de recul?
Je pense que oui, mais qui sera pas... l'année 2020 ne nous inquiète pas plus que ça en termes de recul. Il va avoir un recul, mais il y a quand même dans ce pays une confiance dans la pierre. Ouais. Des taux d'intérêt qui sont bas, des mesures qui auront un impact, évidemment, après 2020. Honnêtement, notre fédération dit les choses très clairement, quand ça va, quand ça va pas. 2020, je pense que les carnets de commandes qui datent de mesures d'avant sont corrects, et je pense que l'année 2020 devrait être correcte. Ce qui m'inquiète, c'est 2021-2022. Parce qu'encore une fois, il y a toujours un temps long aussi de la mise en œuvre d'une mesure, qu'elle soit positive ou négative. Et donc là, nous considérons qu'un certain nombre de mesures aujourd'hui ne vont pas dans le bon sens pour répondre au manque de 1 million de logements dans notre pays et la rénovation des 30 millions de logements, notamment des maisons. Ce que nous craignons plus, c'est 2021-2022. Mais s'il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est jamais inéluctable. C'est-à-dire que si l'année prochaine on rééquilibre un certain nombre de mesures, on peut éviter encore ce trou de 2021 et 2022, parce qu'il y a une vraie demande, il y a une appétence de nos compatriotes, soit pour la rénovation de leur maison, y compris énergétique, soit pour acquérir ou investir dans le logement. Il faut simplement ni changer les règles chaque année, ni se dire qu'on peut éviter de donner un petit coup de pouce. Ce n'est pas vrai. Dans le contexte fiscal actuel de notre pays, s'il n'y a pas ces mesures d'accompagnement, ça bloque le marché. La meilleure réponse, c'est 2012 jusqu'en 2014. Et il a fallu attendre des mesures en 2014 sous le gouvernement Valls, massives de relance sur le logement principalement, pour qu'on retrouve, nous, de l'activité et les Français des logements en 2016-2017.
Merci beaucoup, Jacques Chanu. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment. On marque une pause. Juste après, c'est Christian Chavagneux, éditorialiste chez Alternative Économique, qui viendra nous parler de son dernier livre. À tout de suite.
BFM Business, midi, leur H. Présenté par Aurélie Planès.
Il est midi 19 et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Christian Chavagneux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éditorialiste chez Alternatives Économiques et vous publiez les plus belles histoires de l'escroquerie du collier de la reine à l'affaire Madoff. C'était aux éditions du Seuil. Moi, je me demandais ce qui vous avait poussé comme ça à vous intéresser à l'histoire de l'escroquerie.
En fait, j'ai beaucoup croisé ces escrocs lors de l'écriture d'ouvrages précédents. Je me suis dit, ils sont vraiment fascinants,
intéressants. Pas personnellement, j'imagine.
Non, pas personnellement, de manière historique, du 18e siècle à nos jours. Donc voilà, j'ai pas pu les croiser de visu. Mais en tout cas, leurs histoires m'ont intéressé. Je me suis dit, il va falloir que j'y revienne. Et voilà, j'y suis revenu. 4 ans de travail.
Quel est le lien entre l'économie et l'escroquerie?
C'est parce que, généralement, il y a des livres sur les escrocs qui racontent simplement. Parce que les personnages sont fabuleux, les escroqueries sont fabuleuses. Moi, je me suis dit, il faut faire un peu plus que raconter, il faut expliquer. Et dès qu'on veut expliquer l'escroquerie, on se dit, mais pourquoi telle escroquerie a eu lieu à tel moment? Et en fait, c'est parce que c'est le reflet exact du fonctionnement de l'économie à ce moment-là. Donc, à l'envers, je me suis dit, je peux raconter l'histoire du capitalisme du 18e à nos jours en l'incarnant par les grands escrocs.
Mais vous partez bien avant le 18e, en fait. Quoi l'escroquerie la plus vieille du monde?
Dans l'introduction, j'ai trouvé une vieille escroquerie qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, c'est une escroquerie à l'assurance au commerce international, les, les bateaux. Vous savez, vous prenez un financeur qui vous finance votre transport de bateau. Là, c'est de Grèce en Sicile et de Sicile en Grèce pour amener du blé pour nourrir les Grecs. Et il y a une clause qui dit que si le bateau a un problème d'attaque de pirates, s'il y a une tempête, hein, vous n'êtes pas obligé de rembourser votre créditeur. Évidemment, là, je trouve un marin qui s'aborde le bateau pour essayer de récupérer l'argent. Ça ne marche pas, il s'est fait prendre.
Et celle qui vous a le plus marqué alors dans tout ça?
À chaque fois que je terminais un chapitre, je me disais, ça c'est l'escroc ou l'escroque, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui vraiment a réalisé la meilleure escroquerie. Et puis à chaque chapitre après, je me dis non, c'est pas le précédent, c'est encore celle-là. Donc toutes sont fabuleuses, toutes sont fabuleuses.
Mais il y en a pas une que vous préférez?
Bon, il y a peut-être Thérèse Imbert. C'est fin 19e siècle, ouais. On est en France, c'est une escroquerie à l'héritage. Sa mère, il y a quelqu'un qui tombe devant sa mère, elle le ramène dans son appartement, fait venir un médecin, elle le sauve. Le gars repart. En fait, c'est un milliardaire américain. Quelques années après, il meurt. Il lègue tout à la mère de Thérèse. La mère de Thérèse est morte jeune. Thérèse Imbert se retrouve à la tête d'un héritage qui la classe parmi les premières fortunes françaises et européennes. Bien évidemment, comme elle va toucher des dizaines et des dizaines de millions, beaucoup de créditeurs veulent lui prêter de l'argent, en plus à des taux d'intérêt très élevés. Elle va vivre pendant 15 ans à crédit. Pourquoi ? Parce que juste au moment où elle allait toucher l'héritage, deux neveux arrivent en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette Française dont on n'a jamais entendu parler ? Ouais. C'est nous les héritiers. » Procédure juridique sur procédure juridique pendant 15 ans. À la fin, il y a des gens qui vont dire « Quand même, cet héritage, on aimerait bien le voir. » Alors l'avocat de Thérèse va dire « Écoutez, on va couper court à toutes les rumeurs. Vendredi, rendez-vous chez Thérèse, on ouvre le coffre, vous allez pouvoir compter l'argent. » Et quand les gens arrivent le vendredi, il y a un bouton de culotte dans le coffre. En fait, il n'y a jamais eu d'héritage, jamais eu de milliardaire, jamais eu de neveu. Et elle a escroqué pendant 15 ans. Elle a eu tout le tout Paris judiciaire, politique chez elle. Parce qu'évidemment, sa fille allait toucher beaucoup d'argent. Donc, il y a beaucoup de jeunes politiques qui voulaient draguer sa fille pour la marier. Tout était inventé, pas d'héritage. Elle a vécu à crédit pendant 15 ans. Elle est formidable.
Et elle s'en sort à la fin ?
Non, elle s'est enfuie en Espagne. On la rattrape, on l'extrade en France. On s'aperçoit au procès que c'est une dame qui est pas très jolie, qui s'exprime avec beaucoup de fautes de français. On se demande comment elle a pu escroquer toutes ces personnes-là. Si vous allez sur Wikipédia, on va vous dire qu'elle est sortie de prison, donc elle a fait de la prison. Elle est sortie de prison, elle est partie aux États-Unis où elle est morte en 1918. Pas du tout, moi j'ai retrouvé sa trace en 1939.
Ah bon ?
Pourquoi ? Parce qu'elle avait envoyé un de ses jeunes frères qui ne voulait pas participer à l'escroquerie, exploiter des plantations en Afrique du Nord. Et en fait, le pauvre gars, il est mort avec pas grand-chose, l'équivalent de 2-3 000 euros. Et on en a de ses nouvelles en 1939 parce qu'il y a un notaire qui veut lui donner cet héritage, mais de 2-3 000 euros, pas des millions.
Bon, alors vous partez, on le disait, de très très loin, ce qui fait que, en fait, j'ai compris, enfin, il me semble que du coup, l'escroquerie n'est pas nécessairement corrélée à une économie de marché, c'est valable de tout temps.
Oui, tout à fait. On trouve beaucoup de littérature qui nous dit que l'escroquerie, c'est lié au libéralisme,
au néolibéralisme. À des bulles, éventuellement.
Alors, c'est pas complètement faux, mais moi, j'ai trouvé plein de systèmes économiques. Au XVIIIe siècle, honnêtement, on n'est pas en plein libéralisme. Au XIXe siècle, non plus. Et j'ai trouvé beaucoup d'escroqueries. Donc, c'est pas tellement lié au régime économique. L'escroquerie n'est pas plus libérale que non libérale. Elle est liée, par contre, elle reflète complètement le fonctionnement de l'économie de son temps.
Et dans quelle mesure est-ce que ça doit nous amener à tirer des leçons économiques, en fait?
Ah bah, on peut. C'est surtout des leçons psychologiques pour éviter de se faire avoir par les futurs escrocs. Je pense qu'on peut. Alors, les économistes n'ont rien à dire sur le sujet. Plus surprenant, les sociologues qui travaillent sur les élites criminelles n'ont pas grand-chose à dire sur les escrocs. Je n'ai trouvé des éléments d'analyse que chez les psys. Et là, on peut avoir le portrait robotype de l'escroc ou de l'escroque. C'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. Quelqu'un qui a eu un gros problème dans l'enfance. Ses parents ne lui ont pas donné l'amour et la reconnaissance. Donc, il est obligé de compenser cette douleur par une survalorisation de lui-même. Il développe un instinct de prédation qui va faire que ce qu'on lui a pas donné, il va aller le chercher. Moi, je croyais qu'ils étaient toujours entourés d'une dizaine de personnes, parce que pour monter une escroquerie, ouais, il faut des complices. En fait, il leur faut des petits miroirs qui, en permanence, leur reflètent l'idée qu'ils sont intelligents, supérieurs, qu'ils organisent. Et ça, c'est la caractéristique typique de tous ces escrocs du 18e à nos jours.
Mais alors, ce qui est assez drôle, finalement, et que vous relevez, c'est que, en fait, ces profils-là, on les retrouve aussi chez des grands patrons.
Ça m'a fasciné.
Il y a des travaux de
psychologie sociale qui montrent que quelqu'un comme Jeff Bezos, par exemple, le grand patron d'Amazon, il a toutes les caractéristiques de mes escrocs. Et si vous regardez Mindhunter, une série sur Netflix, qui sont sur la première police scientifique qui essaie de saisir la psychologie des tueurs en série, c'est exactement la même chose aussi. Donc, vous avez une même base psychologique qui vous donne soit des tueurs en série, soit des grands escrocs fabuleux, soit des grands patrons. Et là, pourquoi est-ce qu'on prend une branche plutôt que l'autre? Je ne sais pas, je ne suis pas assez spécialisé. J'espère que les psys ont la réponse. Moi, je ne l'ai pas trouvé pour l'instant.
Alors, selon vous, quel peut être leur prochain terrain de jeu? Parce qu'effectivement, on voit que ça évolue, oui. L'escroquerie avec l'époque, avec le milieu financier dans lequel ils évoluent également. C'est quoi les prochaines grandes escroqueries auxquelles il faut s'attendre?
Bah, là, déjà, avec le changement climatique, on a des escroqueries vertes, hein, qui sont liées aux certificats d'émission qu'on peut négocier. Il y a une énorme escroquerie, le plus grand casse du siècle en France, 1,5 milliard sûrement de volets. L'escroquerie à la start-up. On nous parle beaucoup de la start-up nation et partout dans le monde, ça fait du bien les start-up. En fait, on a Elizabeth Holmes, dont le procès va commencer en août et qui va être joué au cinéma par Jennifer Lawrence, qui est une jeune dame qui dit, vous savez, moi, les piqûres, je supporte pas. Donc, elle dit qu'elle a inventé un petit prototype qui permet de se piquer, de prendre une goutte de sang sur votre doigt. Vous mettez ça, c'est comme une cassette, vous le mettez dans un appareil qui vous fait une analyse formidable, mais de beaucoup, beaucoup de maladies possibles, alors que normalement, c'est pas possible avec une goutte, c'est très difficile. En fait, elle a arnaqué tout le monde, plus $1 milliard récupérés.
Non, mais y compris Bill Clinton, je crois.
Elle a surtout pris de l'argent chez les républicains, chez les grands. Henry Kissinger, par exemple, grande figure. Par contre, elle a aussi séduit les démocrates. Et quand Joe Biden, qui était le vice-président de Barack Obama, est venu visiter, parce qu'une jeune femme très entreprenante, en fait, elle a construit un faux labo pour lui faire croire que tout était magnifique, en fait, tout était fake, c'était juste de la construction.
Elle était très très jeune en plus, non ?
Elle était très très jeune. Elle a entre 20 et 30 ans quand elle commence son escroquerie. Moi, je pense que demain, je vais te donner de conseils à personne, mais le big data. C'est vraiment très en avance des entreprises qui vont vous faire croire qu'elles peuvent analyser des données pour vous vendre quelque chose alors qu'elles n'ont rien derrière. À mon avis, il y a peut-être de l'escroquerie, peut-être déjà dans ce secteur.
Mais la blockchain, par exemple, ça ne pourrait pas limiter ça à l'avenir ?
Alors, la blockchain est juste une technique très particulière qui permet d'échanger des informations de manière très sécurisée. Maintenant, vous avez plein d'autres escroqueries qui ne passent pas par la blockchain.
Donc ça veut dire que la technologie aujourd'hui n'est pas capable encore, selon vous, de limiter notre propension à nous faire escroquer ?
L'escroquerie, c'est lié à la psychologie. Et on a une propension à se faire escroquer. On adore se faire raconter des histoires, en fait. Et donc les escrocs nous racontent des histoires. Et je pense que ça va continuer encore pendant longtemps.
Alors, je sens, quand vous en parlez, un certain enthousiasme et une certaine admiration qui transparaît aussi dans le livre. Alors c'est quoi votre livre ? C'est une ode aux escrocs et à l'escroquerie ?
Non, pas du tout. Au contraire, c'est essayer de comprendre l'économie en l'incarnant et en définissant le profil psychologique et des escrocs et le nôtre. Attention. Par exemple, on a toujours des biais psychologiques parce que pratiquement pour tous ces escrocs, il y a eu des lanceurs d'alerte. Des gens qui sont venus dire, attention, c'est peut-être une escroquerie, mais on n'entend que ce qu'on veut entendre, que ce qui confirme nos choix précédents. Et du coup, on s'est fait avoir un petit détail qui est absolument amusant, c'est que les escrocs, bien évidemment, vont escroquer surtout les riches, pas les pauvres. Évidemment. Donc il y a des tests psychologiques sur les pauvres qui montrent qu'ils ont une morale un peu plus élastique que les autres. Et il y a un test très drôle où on fait lancer 3D à différentes personnes dans les classes selon le niveau de revenu. Et on leur dit, celui qui va avoir le plus de points avec les 3D, on va lui donner une petite gratification financière. Et sauf que personne ne sait que les 3D ont été bloqués, truqués, pour pas faire plus de 12 en 3 lancés. Qui revient avec des 17, 18, toujours les plus riches. Donc voilà, les escrocs vont chercher, évidemment, l'argent, c'est les plus riches, mais les riches, une petite morale élastique qui font que peut-être ils sont plus susceptibles que le reste de la population de se faire escroquer.
Vous êtes en train de nous dire qu'on en veut toujours plus, en fait.
On en veut toujours plus, et surtout on veut faire voir à deux, parce qu'on peut dire l'escroquerie c'est l'escroqué et l'escroc. En fait, l'escroqué veut faire voir aux autres qu'il a trouvé un moyen plus rapide, qu'il est plus malin que les autres, plus intelligent pour aller plus vite vers la fortune.
Merci beaucoup Christian Chavagneux. Je rappelle que vous êtes éditorialiste chez Alternatives Économiques et que vous publiez les plus belles histoires de l'escroquerie du collier de la reine à l'affaire Madoff. C'est aux éditions du Seuil. Dans un instant, le journal de l'économie de midi et de nuit. Et puis ensuite, on sera en compagnie de Thibault Langsaad, qui est aujourd'hui ambassadeur pour l'intéressement auprès du gouvernement. A tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Aurélie Planex.
Il est midi 40 et Thibault Langsaad nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes PDG de Jouv, ancien vice-président du MEDEF et ambassadeur à l'intéressement et à la participation auprès du gouvernement. Hier, Bruno Le Maire a dit « Je ne suis pas satisfait de l'application des accords d'intéressement pour les salariés. Le compte n'y est pas encore. » D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler aujourd'hui ce qui a changé dans la loi Pacte et qui doit permettre aux entreprises françaises de mettre plus facilement en place des accords d'intéressement.
La loi Pacte a permis sur les entreprises de moins de 250 salariés, sur les outils d'intéressement, d'exonérer totalement le forfait social, c'est-à-dire 20% de taxes qui étaient mises sur ces outils-là quand l'entreprise donnait de l'argent via un mécanisme d'intéressement. Et pour les entreprises de moins de 50 collaborateurs, il y a une suppression du forfait social également de 20% lors d'une distribution. Donc, les outils d'intéressement qui étaient la participation et l'intéressement, aujourd'hui redeviennent des outils attractifs pour les entreprises de moins de 250 salariés. Il y a à peu près 1 200 000 collaborateurs qui sont couverts par ces dispositifs. Ouais. L'objectif du gouvernement, c'est de doubler d'à peu près 3 millions de collaborateurs couverts par des dispositifs d'intéressement et de participation d'ici 2020, probablement maintenant d'ici 2021.
Vous avez repoussé l'objectif?
L'objectif, il reste. Le tout, c'est que il faut que ces entreprises puissent signer des accords avant la fin juin, parce que vous savez que ces mécanismes d'intéressement sont un pari sur le futur de l'activité, donc vous ne pouvez pas parier au moment où vous clôturez votre exercice, donc il faut un temps qui permet de s'assurer que le caractère est bien, il y a un aléa, et il faut faire cela avant la fin du mois de juin, et pour le moment, les comptes n'y sont pas. Les dispositifs qui pendant longtemps ont été taxés, beaucoup de petites entreprises ont considéré que c'était plus simple de donner des primes, maintenant ils doivent mettre en place dans les entreprises, des accords types simplifiés, qui permettent d'accélérer le processus de mise en place. Pour les entreprises de plus de 50, il faut tout de même négocier avec les partenaires de l'entreprise. Mais j'ai envie de dire, négocier quand on veut distribuer et associer les collaborateurs au partage de la valeur, c'est une chose relativement aisée.
Alors, surtout que le gouvernement, vous parliez de primes, a reconduit sa prime défiscalisée de 1 000 euros, à condition toutefois de mettre en place cet accord d'intéressement.
C'est oui, c'est-à-dire que la prime qui avait été mise dans un caractère un peu d'urgence dans le contexte que l'on connaît des gilets jaunes, où beaucoup d'entreprises ont joué le jeu, il faut aussi s'assurer que les primes que l'on puisse donner à nos collaborateurs correspondent à quelque chose. Moi, j'ai mis dans mon entreprise cette prime, je l'ai donnée. Certains collaborateurs ont été ravis de l'argent qu'ils ont pu recevoir. D'autres m'ont dit, mais globalement, vous la puisez au fond de votre poche, et pourquoi pas un peu plus? C'est tout simplement parce qu'on vous demande de verser. Ce qui est intéressant dans l'intéressement, c'est d'associer les collaborateurs au partage de la valeur. Donc vous définissez un certain nombre d'objectifs, qui sont des objectifs qui peuvent être chiffrés sur le chiffre d'affaires, sur l'excédent brut d'exploitation de l'entreprise, mais également sur des objectifs qui peuvent être la réduction des taux d'accident, l'amélioration des délais de paiement, ou des choses très factuelles qui permettent...
Ah, ça peut être sur des choses aussi factuelles que ça.
Qui permettent d'embarquer l'ensemble des collaborateurs sur des objectifs que vous définissez. Vous pouvez réduire l'absentéisme en disant, voilà, moi, l'absentéisme coûte cher à l'entreprise, ça perturbe la production, je mets un objectif pour réduire l'absentéisme. Et donc, vous pouvez embarquer l'ensemble des collaborateurs sur des objectifs qui ne sont pas que des objectifs chiffrés. Et puis, c'est une juste rémunération, finalement, de ce que l'entreprise va dégager comme valeur. Ça nécessite la mise en place d'un dispositif, de le négocier, ça nécessite également de l'expliquer, de faire vivre votre accord tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, pour expliquer là où vous en êtes par rapport aux objectifs que vous avez.
Vous croyez que les entreprises, surtout les petites, elles ont le temps de faire ça?
Alors, j'ai envie de dire, une petite entreprise, vous mettez sur des objectifs simples, qui est le chiffre d'affaires, qui est, on va dire, des choses qui sont tangibles. Tout le monde le voit. Quand vous êtes dans une boulangerie, vous pouvez avoir des objectifs sur la vente unitaire de certains produits, sur le chiffre d'affaires de la journée. C'est assez simple. Le tout, c'est que c'est un instrument qui permet aux chefs d'entreprise de pouvoir communiquer, d'associer les collaborateurs à la vie de l'entreprise. Et ça, ce n'est que positif. Et ensuite, ça va soit directement dans la poche du collaborateur, soit le collaborateur décide de placer cet argent sur un plan d'épargne entreprise qui est soumis à rémunération et qui est également défiscalisé.
C'est facteur de fidélisation, ça, pour les salariés dans une entreprise?
Mais oui, parce que quand vous êtes dans une petite entreprise, eh bien, d'abord, vous souffrez d'un différentiel par rapport aux grandes entreprises qui ont des programmes de rétribution qui sont très globaux. Vous devez à la fois attirer les talents, les fidéliser, les stimuler, participer à la vie de l'entreprise. Et quand vous mettez en place cet accord, c'est relativement simple, un peu de formalisme au départ, mais vous associez pleinement les collaborateurs à la vie de l'entreprise.
Alors, moi, je me mets à la place du chef d'entreprise qui a une petite entreprise et qui verse des salaires plutôt bas. C'est plus simple pour lui de se dire, je vais augmenter mes salaires plutôt que de mettre en place ce type d'accord. Ça peut se comprendre.
D'abord, oui, mais les salaires, une fois que vous les avez augmentés, vous ne les réduisez pas. Les salaires, ils sont soumis à charge. Charge, contribution patronale et charge sociale. Là, vous avez un véhicule où c'est totalement exonéré. C'est-à-dire que ce que vous donnez aux collaborateurs est exonéré de toute taxe. Donc, vous dites juste aux collaborateurs, voilà, si on fait notre chiffre d'affaires, si on réduit, par exemple, l'absentéisme, si on a des grands marchés dans le segment que j'ai précisé, ben, vous aurez une rétribution qui, globalement, peut être calculée quasiment un an avant, qui est défiscalisée pour le collaborateur s'il le met sur un plan d'épargne d'entreprise et qui n'est pas soumis à charge pour l'entrepreneur. Donc, c'est du gagnant-gagnant.
Le plan, on est obligé de le prévoir à combien de temps ?
Alors, vous signez un accord qui est valable pour 3 ans, vous pouvez le dénoncer à tout moment, et puis pour les entreprises qui le mettent en place pour la première fois, puisque vous ne savez pas très bien comment il faut caler vos objectifs, c'est valable pendant 1 an. Et vous, après, vous pouvez le remodeler si vous le souhaitez. Pour les entreprises de moins de 50, vous allez sur le site du ministère de l'économie, vous avez des accords types, et donc il vous suffit de choisir les formules, et le gouvernement travaille pour les entreprises de moins de 11 salariés, pour que ce soit une décision unilatérale du chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de le faire valider par ses collaborateurs, il le met en place de façon automatique. Les branches professionnelles, si elles négocient avec leurs instances, c'est-à-dire si les syndicats et le patronat négocient dans les branches, eh bien, vous pouvez appliquer cet accord de façon unilatérale dans les entreprises de moins de 50. Donc, je suis dans une entreprise service, le Syntec négocie, je prends l'accord du Syntec et je peux le mettre en place automatiquement dans mon entreprise.
Bon, alors, si je vous écoute, c'est ultra simple. Donc, pourquoi ça bloque ?
Parce que, d'abord, pendant longtemps, il y a eu un peu de méfiance de la part des entrepreneurs, en disant, bah, nous, on a mis ça par le passé, et puis le forfait social, chaque année, il a augmenté jusqu'à 20%. Mm-hmm. Donc là, je reviens à votre raisonnement, c'est plus simple de donner du salaire que de donner des primes. Maintenant, le forfait social, il a disparu. Il faut s'assurer qu'il y ait une pérennité, c'est la volonté
du gouvernement. Oui, c'est ça, parce que l'instabilité fiscale, on connaît quand même.
Oui, et c'est pour ça qu'il faut être vigilant, mais il y a une volonté du gouvernement de faire en sorte que ce soit pérenne. Donc, c'est redevenu attractif. Après, il faut en assurer la promotion, c'est-à-dire qu'il faut que les acteurs de l'entreprise dans la sphère entrepreneuriale fassent la promotion de ces dispositifs. Il faut que les branches professionnelles recommandent à leurs entreprises de les mettre en place, accessoirement de définir des accords qui soient spécifiques. Une entreprise dans l'industrie n'a pas les mêmes critères, les mêmes objectifs qu'une entreprise qui est dans l'univers, on va dire, du bâtiment ou des travaux publics. Et donc, il faut que les branches professionnelles accompagnent les entreprises. Il faut que le réseau des experts comptables, les CCI, les organisations patronales territoriales jouent le jeu de l'information. Après, il y avait un petit obstacle administratif. Et vous savez que quand on est entrepreneur, on a parfois un peu de méfiance, de défiance à l'égard de l'administration. Si je signe un accord d'intéressement et que je l'envoie à l'inspection du travail et aux URSSAF, le risque était de dire « Ouh là là, ça va peut-être allumer un warning et je vais peut-être être contrôlé ». Et on n'a pas envie d'être contrôlé par l'administration, surtout quand vous mettez en place des dispositifs qui permettent d'améliorer la rémunération des collaborateurs. Et donc, tout ceci a été simplifié. Bercy et le ministère du Travail ont mis en place des accords types, qui fait que globalement, si vous mettez en place cet accord type, vous risquez pas d'être requalifié dans le contrôle qu'opérera les services. Le processus administratif est simplifié. Voilà, donc on est en train de tourner une page de vieux dispositifs pour remodeler des accords plus modernes, plus en phase avec la réalité de l'entreprise, avec des critères qui intéressent plus les collaborateurs, puisque vous allez peut-être sur des critères plus RSE auxquels la jeune population que nous recrutons
est plus vigilante
sur ces critères. Et puis, une fois de plus, quand vous êtes dans une PME, dans une TPE, c'est parfois difficile de recruter, mais c'est aussi souvent très difficile de fidéliser des collaborateurs. Et là, il y a des instruments de fidélisation qui, à la fois, permettent de rétribuer, mais qui permettent aussi d'expliquer la vie de l'entreprise. Si vous fixez des objectifs et que vous atteignez ces objectifs, il va falloir expliquer, communiquer à l'ensemble de vos collaborateurs, et c'est un acte de management pour le chef d'entreprise.
Bon, alors, si je vous suis bien, en fait, c'est qu'il y a surtout un manque de pédagogie de la part des partenaires sociaux ou...
Alors, les partenaires sociaux, les branches professionnelles ne négocient pas suffisamment d'accords types. Il y a à peu près 80 branches aujourd'hui, on a une douzaine d'accords, et pas les est plus importante. Donc il faut que les branches professionnelles, dans un contexte que l'on connaît, des retraites...
Ils sont peut-être déjà bien occupés, vos branches.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle de la rémunération des collaborateurs, du partage de la valeur. Donc ce sont des sujets...
Du pouvoir d'achat aussi.
C'est du pouvoir d'achat. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des sujets d'ailleurs qui vont rentrer dans l'entreprise, puisque les négociations vont commencer dans les entreprises. Il faut véritablement qu'elle s'en empare. Et pour s'en emparer, il va falloir qu'elle définisse des critères d'intéressement pour faciliter la vie de leurs adhérents, ou en tout cas des entreprises qu'elles représentent au travers de ces branches.
Moi, je suis sur BFM Business depuis un moment. Je commence à connaître un peu les problématiques d'intéressement, mais jamais j'avais entendu parler de critères qui étaient autres que financiers, par exemple.
Et oui, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de mettre... C'est pour ça que des petites entreprises qui disent « Mais écoutez, moi, d'abord... j'ai pas forcément la rentabilité, mais je veux pouvoir primer. J'ai la trésorerie suffisante pour pouvoir financer, on va dire, le partage de la valeur. Mais sur quel critère, quel objectif ? Bah, là, vous le définissez avec vos collaborateurs. Alors, dans les entreprises, ça peut provoquer un peu de méfiance aussi de la part des collaborateurs. Tu veux me donner de l'argent ? Mais il faut négocier. Mais où est le loup ? Pourquoi veux-tu négocier avec moi alors que tu veux me donner de l'argent ? Parce que c'est de l'argent qui est désocialisé. Et donc, il faut l'encadrer. Et il faut s'assurer que les objectifs que l'on fixe soient des objectifs qui soient atteignables, mais qu'ils conservent un caractère aléatoire. Parce que sinon, c'est plus un objectif. Et donc, tout ceci doit être expliqué aux collaborateurs. Quand vous mettez en place un plan d'épargne entreprise auprès d'un collaborateur, il faut quand même reconnaître que c'est de l'épargne. Donc vous mettez de l'argent sur un compte qui est bloqué, qui est défiscalisé, que vous pouvez débloquer en fonction d'aléas de la vie, d'une naissance, d'un mariage, d'un déménagement et d'autres aléas. Mais tout ceci doit être expliqué aux collaborateurs. Donc ce sont des produits qui ne sont pas simples. Mais qui ont beaucoup évolué depuis ces dernières années. La réglementation s'est assouplie. Vous pouvez signer un accord pour un an et non pas pour trois ans. Aujourd'hui, ça redevient attractif. Voilà, il faut réinitier, on va dire, toute une méthode. Il faut encourager les experts comptables, les commissaires aux comptes, les chambres de commerce, d'être les partenaires, on va dire, de ces dispositifs, y compris les acteurs financiers qui détiennent une partie de la clé et de la réussite de ce projet.
Alors je disais quand même qu'on est les champions européens en matière d'intéressement et qu'on est à peu près 4% du capital des entreprises concernées aujourd'hui. La moyenne européenne, c'est 1,7. Donc finalement, c'est pas si mal.
Non, c'est pas si mal. Ce qui est important, c'est que toutes les entreprises puissent le mettre en place. Une fois de plus, les grandes entreprises, d'abord, la participation est obligatoire pour les plus de 50. Oui. Toutes les grandes entreprises ont des accords d'intéressement. Parce que c'est institutionnalisé. Moi, je parle essentiellement des PME qui, pendant longtemps, comme vous le disiez tout à l'heure, ont dit « mais le forfait social a tellement grimpé que globalement, je préférais ne pas m'ennuyer dans un processus administratif bloqué pendant 5 ans de donner du salaire. » Aujourd'hui, la charge, le forfait social est ramené à zéro. Et une fois de plus, l'aspiration des jeunes collaborateurs demande plus de transparence, plus de vision, de partager, on va dire, l'avenir de l'entreprise et également de partager, on va dire, la valeur qui est créée. C'est véritablement un dispositif qui a été totalement modernisé par le gouvernement.
Alors, vous êtes aussi chef d'entreprise, vous êtes PDG de Joux, vous le disiez, entreprise de services numériques. À ce titre, la semaine dernière, vous étiez reçu à l'Élysée dans le cadre de Choose France pour la séquence qui était consacrée aux ETI. Moi, je voulais avoir votre ressenti sur cette séquence qui était quand même une première. Est-ce que ça va changer le regard des Français sur les ETI, ce type de séquence ?
Je pense qu'il y avait un point de départ, ça a été donné par le président de la République. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que tous les entrepreneurs que j'ai vus à l'Élysée, ils étaient, et moi-même, extrêmement honorés, touchés d'être reçus par le président de la République. Ça n'a pas changé leur quotidien le lendemain.
Mais bien d'accord.
Il y a eu une prise de conscience que les entreprises de taille intermédiaire, souvent oubliées, méconnues de la part des Français, et pourtant très ancrées dans les territoires, il faut mettre, on va dire, un projecteur sur ces entreprises qui recrutent, qui se développent, et qui deviendront, il faut l'espérer, par la suite, des entreprises plus importantes. Donc, prise de conscience, des chefs d'entreprise présents d'avoir été traités de façon différenciée, patients. Maintenant, il faut également que ça se traduise par des mesures concrètes pour les entreprises de taille intermédiaire.
Et la marque ETI, ce n'est pas suffisant.
Alors, la marque ETI, elle est très récente. Et d'ailleurs, elle n'est pas reconnue réellement au niveau européen. Vous avez les PME, vous avez les grandes entreprises. Mmh. Et l'ETI est quelque chose de très français. Pourtant, le Mittelstand est quelque chose de très robuste
en Allemagne. Ouais.
Il faut que ce que fait le METI, qui tente d'imposer à la fois la marque, mais également les critères qui permettent de le définir, soient mieux ancrés, on va dire, dans la loi, avec le risque, et c'est toujours ça qui est compliqué, de créer, ce que nous voulons pas, c'est de créer des seuils pour définir et critériser, on va dire, un certain nombre de paramètres pour l'entreprise.
Donc quand vous dites que vous attendez des choses concrètes, c'est quoi? C'est la fameuse baisse des impôts de production retardée, renvoyée?
Il y a évidemment la baisse des impôts de production, mais qui, dont je crois comprendre, maintenant est à l'étude avec une compréhension assez globale.
2 ans et demi qu'elle est à l'étude.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à l'étude et donc il y aura probablement des mesures. On parlait de l'intéressement. Les entreprises de taille intermédiaire de plus de 250 salariés payent le forfait social. Donc, dans mon entreprise, où les collaborateurs vont recevoir l'intéressement, c'est chargé à 20%. Bon, ça ne m'assiste pas à devenir fondamentalement une très très grande entreprise. Bon. Il faut travailler ce forfait social également pour les entreprises de taille intermédiaire, mais ce sont des entreprises qui se relocalisent pour certaines en France. Il faut qu'elles soient également encouragées et prises en charge dans cette relocalisation. Et puis, elles n'existent pas suffisamment dans notre modèle économique. Pas sur BFM Business où vous recevez tous les entrepreneurs, mais quand vous regardez, on va dire, les médias un peu plus globaux. Vous parlez des grandes entreprises, des dividendes, des stock options, des grandes entreprises. Et puis, vous avez les PME qu'il faut aider, solliciter. Il y a 4500 entreprises qui sont une fois de plus ancrées dans les territoires, qui génèrent énormément d'emplois, qui doivent être pris en considération, que les Français adorent, mais que souvent, elles ne connaissent pas. Ce sont des entreprises qui, pour beaucoup d'entre elles, sont familiales et n'ont pas forcément communiqué comme une jeune start-up qui a compris que cet écosystème fonctionnait ainsi. Donc il faut lever un regard positif sur ces entreprises qui feront l'économie de demain.
Merci beaucoup Thibault Langsat. Je rappelle que vous êtes le PDG de Jouve et donc ambassadeur à l'intéressement et à la participation auprès du gouvernement. C'est la fin de l'orage. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Edwige Chevrillon. Très bonne journée sur BFM Business.